Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débats et de décryptage. Et ce soir, un grand sujet évidemment d'actualité, Emmanuel Macron face aux Français. Dans tout juste deux heures, on se dirige vers de nouvelles annonces fortes, on en parlera très largement avec nos invités. À 18h20, le président de l'Association des médecins urgentistes de France, Patrick Peloux. La situation n'est pas si critique dans les hôpitaux, ça n'est pas encore la bérésina, dit-il, il sera avec nous. 18h30, les polémiques du jour, Emmanuel Macron est-il trop solitaire dans ses prises de décision, qui pourtant engagent tout le pays, on en parlera. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou. Le bout du tunnel est proche. Bonne nouvelle avec la vaccination qui s'accélère, nous dira-t-il. 19h20, le Club des idées, grand débat ce soir sur l'implication de ces nouvelles mesures pour notre quotidien, en entreprise, pour les familles, pour les élèves. Fermer les écoles, d'accord, mais pour quel impact sanitaire réel? On en parlera avec nos invités nombreux jusqu'à 20h. Et puis on suivra ensemble évidemment l'allocution du président de la République avant le débrief juste derrière. Voilà pour le programme. D'abord toute l'info avec Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
On n'est plus dans une situation de contrôle du virus dans les écoles. Et donc ça veut dire que les enseignants vont se contaminer, que les parents vont se contaminer et que les enfants sont contaminés.
À l'image du professeur Gilbert Deray qui était l'invité d'Europe 1 ce matin, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une fermeture des écoles, seule façon, selon eux, de limiter la propagation du virus en attendant la vaccination.
Oui, la fermeture des écoles, une option qui semble tenir la corde et qui pourrait être annoncée ce soir par Emmanuel Macron.
Le chef de l'État pourrait également annoncer un confinement de l'ensemble du pays, moins strict qu'il y a un an, mais avec sans doute des déplacements limités entre les départements.
Oui, ce sont pour l'instant les pistes privilégiées, envisagées. On verra que les Français, notamment les parents, se demandent évidemment comment ils vont gérer cette nouvelle épreuve, le travail à la maison, notamment avec les enfants.
On entendra aussi l'inquiétude des professionnels du tourisme qui commencent à comprendre qu'ils ne pourront sans doute pas compter sur les vacanciers à Pâques.
Au sommaire également ce soir, la fin du coup de pouce vélo, cette prime qui a permis de financer près de 2 millions de réparations.
Et puis à Vienne, tous les Thomas Pesquet en herbe, l'agence spatiale européenne recrute de nouveaux astronautes. Les candidatures viennent tout juste d'ouvrir. La Bourse de Paris a terminé ce soir en légère baisse de 0,34% à 6607 points.
Météo Anissade a dit enfin une bonne nouvelle, l'été se poursuit.
Alors attention, c'est le dernier jour demain, donc derrière les bonnes nouvelles se cache toujours une mauvaise. Mais ce que je peux vous dire, c'est que à nouveau, demain, le soleil sera très présent. Nous avons une petite bise qui va souffler sur le nord-ouest et rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Et je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans moins de deux heures maintenant, Emmanuel Macron prendra donc de nouveau la parole pour annoncer aux Français les nouvelles mesures qu'il compte prendre face à la dégradation de la situation sanitaire.
Sa dernière allocution, c'était le 24 novembre dernier. La seconde vague est passée, disait ce jour-là le chef de l'État. En réalité, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et 4 mois et 50 000 morts plus tard, Emmanuel Macron se voit de nouveau contraint donc d'appuyer sur le frein.
Jean-Rémy Baudot, on a beaucoup entendu ces derniers jours les médecins, des hospitaliers dire que les services étaient saturés à l'hôpital et qu'il fallait reconfiner de toute urgence, qu'il n'y avait pas d'autre choix. D'après vos informations, la clé des annonces de ce soir, Jean-Rémy, c'est donc l'école.
Oui, Julien, l'école qui n'accueillera plus d'élèves pendant au moins les 4 prochaines semaines. C'est l'un des points qui a été le plus discuté ces dernières heures au sommet de l'État. On se souvient que l'Élysée avait fait du maintien de la scolarité un marqueur de la stratégie française. Mais les chiffres de l'épidémie s'imposent à l'exécutif. Il faut donc restreindre. Les écoles devraient donc se dérouler à distance la semaine prochaine. Puis les vacances de Pâques seront uniformisées pour toutes les zones à partir du vendredi 9 avril. Concrètement, ça veut dire 3 semaines au minimum de fermeture jusqu'à début mai, une période qui devrait permettre de vacciner les enseignants. Notez un point important, cette mesure sur les écoles, elle concerne l'ensemble du territoire, pas uniquement les zones déjà confinées. Un triple objectif, faire baisser les contaminations dans les établissements, limiter le brassage des parents devant les écoles. Enfin, forcer les entreprises à accorder du télétravail pour les salariés qui devront aussi donc s'occuper de leurs enfants.
Merci Jean-Yves Baudot, le télétravail. On va en parler justement, restez avec nous, on aura encore besoin de votre éclairage tout à l'heure. On comprend donc que la stratégie pour stopper l'évolution de l'épidémie passe d'abord par les écoles. Une fermeture, c'est justement ce que redoutent de nombreux parents qui n'ont pas du tout envie de se retrouver confrontés au même casse-tête
oui,
qu'il y a un an.
C'est ce qu'ils vous ont dit en tout cas Jean-Sébastien Soldaini quand vous leur avez posé la question dans le Bois de Boulogne près de Paris cet après-midi.
Il y a clairement ce sentiment d'un nouveau saut dans le vide qui les guette, le jour sans fin où tout s'entremêle quand le télétravail s'immisce dans le cours de CE1 et qui ne laisse qu'un sentiment chez Émilie, maman de petite fille, l'appréhension.
Ça va être long,
ça va être très long et puis il va falloir les occuper, ouais, et arriver à gérer le travail en même temps. Donc, ça va être en termes d'organisation, d'efficacité au travail, de bien-être des enfants aussi, ça va être compliqué. Et puis essayer d'être le plus serein possible pour eux parce qu'il ne faut pas leur montrer l'inquiétude.
Il faut préserver les enfants, ce sera le maître mot pour Jérôme qui devra trouver les bons mots pour leur expliquer ce retour à la case printemps 2020.
Bah aujourd'hui, mes filles, elles m'en parlent. Hein. Elles pensent à leurs amis, elles pensent aussi à leur maître, leur maîtresse. Et c'est vrai que c'est un moment important pour elles, l'école. Au-delà de l'apprentissage, c'est le lien avec les amis. Ce qui les déstabilise le plus, c'est de ne pas avoir vraiment le sentiment d'avoir une date très claire. En fait. J'ai l'impression que c'est toujours quelque chose qui glisse, qui est diffus. Et ça, je pense que c'est... Enfin, vu d'elles, vu de leurs petits yeux, c'est, je pense, assez déstabilisant.
Déstabilisant, mais pas au point de se précipiter hors de Paris, car contrairement à l'an passé, ce couple restera éloigné des grands-parents.
Eh bien merci Jean-Sébastien Stolleini, vous étiez en direct du Bois de Boulogne près de Paris. Alors on comprend bien que si l'exécutif opte pour une fermeture des écoles, ce qui est encore à confirmer, on le rappelle, c'est aussi et peut-être même surtout pour obliger les parents à télétravailler. Il faut le moins d'interactions sociales possible. Olivier Samin, est-ce que vous pouvez expliquer à tous les parents qui nous écoutent ce soir sur Europe 1 comment ça pourrait se passer si à partir de lundi, ils devaient rester chez eux pour garder leurs enfants?
Eh bien il y a deux cas de figure. Le premier, c'est celui des parents dont l'emploi permet le travail à distance. Pour eux, ce sera télétravail avec les enfants à la maison, ce qui laisse présager de longues journées, peu propices à la concentration. Situation que des millions de familles ont vécue de plus ou moins bon cœur lors du premier confinement. Le deuxième cas de figure, c'est celui des parents qui exercent un emploi non télétravaillable. La solution pour eux, c'est retour à la maison pour s'occuper des enfants et prise en charge par l'activité partielle, autrement dit maintien de la rémunération à hauteur de 84% du salaire net financé par l'État. Lors du premier confinement, il y a un an, on a compté jusqu'à 2,5 millions de salariés dans cette situation. Et le dispositif, qui avait été mis en sommeil quand les écoles ont rouvert à la fin du printemps dernier, le dispositif est toujours actif. Il est donc probable qu'on reparte là-dessus, sauf si le gouvernement décide de mettre en place une nouvelle mesure. Et ça, on le saura très vite.
Précision utile d'Olivier Samin du service Écho d'Europe 1.
Oui, on vous retrouve une fois de plus, Jean-Rémy Baudeau. Limiter les interactions sociales, ça n'est pas seulement obliger les enfants à rester à la maison et leurs parents à télétravailler, c'est aussi limiter, on l'imagine, les déplacements. Là aussi, il y a des pistes à envisager.
Oui, on verra si Emmanuel Macron ce soir utilise le mot de confinement, mais la réalité, elle est celle-là. Dans les prochaines semaines, les déplacements vont être limités dans le pays. Le ministère de l'Intérieur prépare donc des contrôles sur l'ensemble du territoire, entre chaque département, à partir de la semaine prochaine. Cela veut dire qu'il devrait y avoir une certaine tolérance pour les prochains jours et notamment le week-end de Pâques. Selon nos informations, il sera possible de quitter son domicile pour aller se confiner dans un autre point du territoire, mais ce, jusqu'à lundi soir. Après, ce sera le retour des attestations, les limitations de 10 km autour de son domicile et l'interdiction de voyager à travers la France.
Bien. Oui, ça présage de nombreux bouchons en perspective pour le week-end de Pâques. Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
C'est possible. En tout cas, on entend vos infos, Jean-Rémy. Et on pense bien sûr à tous ces commerçants qui se disent ce soir que le retour à une vie normale, ce n'est pas encore pour tout de suite. Beaucoup comptaient sur les vacances de Pâques pour se refaire un peu. Et si on ne peut pas se déplacer, ça va encore sacrément limiter le business. Écoutez Stéphanie Leclerc, elle est la présidente de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie en Charente-Maritime.
S'il y a une interdiction de déplacement, ça va être dramatique. Pour notre secteur d'activité, bien sûr, les vacances de Pâques sont très, très importantes. C'est le début de la saison, en fait. Hein. Sur notre territoire Charente-Maritime, les touristes viennent de partout. Donc, il est évident que là, pour les hôtels, s'il y a une restriction de déplacement, ça va être très, très compliqué. S'il n'y a pas de vacances de printemps, s'il n'y a pas de touristes, ne pourront pas remplir les hôtels et ne pourront pas embaucher également les saisonniers comme les réceptionnistes, les femmes de chambre, les veilleurs de nuit, pour pouvoir tenir les hôtels. Là, les réservations se font vraiment à la dernière minute. Les touristes attendent, bien sûr, le discours de ce soir. Mais on ne voit pas le jour, on n'a pas de date, on n'a toujours pas de visibilité quant à la réouverture de nos établissements. Et ça, c'est dramatique psychologiquement pour nos chefs d'entreprise.
La présidente de l'UMI en Charente-Maritime, jointe pour Europe 1 par Romane Hoquet. Et voilà donc ce que l'on pouvait dire, à l'instant présent en tout cas, sur ce que pourrait annoncer d'ici moins de deux heures maintenant Emmanuel Macron.
Intervention que l'on suivra évidemment en direct sur Europe 1 dès 20h et que l'on débriefera jusqu'à 21h avec nos invités.
Europe Soir, le 18-20.
Julien Bugier.
18h10, la suite du journal. C'est un peu la conséquence des confinements successifs. Les Français n'ont jamais autant pédalé le vélo à la côte.
Et oui, et pour aider ceux qui, pour l'occasion, ont ressorti de la cave leur vieux biclou, ça va leur servir apparemment encore dans les prochains jours, et bien le gouvernement avait même mis en place une aide de 50 euros, un chèque coup de pouce que vous pouviez utiliser pour réviser, réparer votre bicyclette. Et bien l'opération s'achève ce soir et elle a eu un succès fou. 2 millions de vélos réparés depuis le mois de mai et forte affluence toute cette journée. Écoutez le reportage de Zoé Pallier dans une boutique parisienne.
Alors votre bicyclette, quelles sont les maladies ?
La chaîne a changé et la paire de pneus surtout.
Resserrer les freins, changer les roues, régler le dérailleur. Christopher et ses collègues enchaînent petites et grandes réparations. Dehors, les clients font la queue. Ils sont deux fois plus nombreux qu'en temps normal.
J'ai un rendez-vous aujourd'hui pour me faire réviser mon vélo.
Pour Romain, pas question de laisser filer cette dernière chance de bénéficier du coup de pouce.
Vendredi, j'ai fait une dizaine de magasins pour avoir un créneau. Et c'était le seul ici qui était disponible, donc parfait.
Jérémy vient lui aussi de ressortir son vieux vélo. Après 10 ans à la cave, la peinture rouge est un peu écaillée et la chaîne un peu rouillée.
C'était l'occasion avec le coup de pouce de le faire réparer, de me remettre au vélo. Tous les amis que j'ai autour de moi qui sont mis au vélo, moi j'étais en moto, je m'aperçois qu'ils allaient aussi vite que moi à Paris.
Parmi ses proches, tous ceux qui ont commencé cette année à pédaler ne comptent pas retourner à d'autres moyens de transport. De quoi rendre confiant Nathanaël Benaïm, fondateur de la boutique et du groupe Repair & Run.
En parallèle du coup de pouce, il y a eu une très forte hausse des ventes de vélos. Donc ces ventes vont entraîner des besoins en maintenance, en révision et donc en réparation.
Nathanaël Benaïm qui s'attend à une hausse constante de la clientèle malgré la fin du coup de pouce vélo. En 2021, il doit même ouvrir une dizaine de boutiques partout en France.
Le reportage pour Europe 1 de Zoé Pallier.
Deux infos judiciaires, Isabelle.
Oui, la condamnation de la journaliste Sandra Muller, l'initiatrice du hashtag Balance son corps, son port. Cette condamnation infirmée en appel, Éric Brion qui la poursuivait en diffamation est débouté. La cour d'appel de Paris reconnaît que les propos tenus sur Twitter par Sandra Muller étaient diffamatoires, mais reconnaît l'excuse de la bonne foi. On y reviendra dans votre journal de 19h. Et puis Cédric Héroux, symbole de l'aide aux migrants en France, est définitivement relaxé. Le militant a été poursuivi pour avoir convoyé des migrants venus d'Italie et organisé un camp d'accueil en 2016.
Et puis avis aux amateurs, si vous avez toujours rêvé de devenir astronaute, une campagne de recrutement, écoutez bien, débute aujourd'hui.
Elle est organisée par l'Agence spatiale européenne. Vous avez le droit de rêver, hein, parce que c'est en postulant à cet appel que Thomas Pesquet avait été recruté en 2009. Mais lors d'Autriche, attention, tout le monde n'est pas Thomas Pesquet, il faut quand même avoir un profil scientifique. Hein.
Oui, les candidats doivent avoir un master dans un domaine scientifique ou un diplôme de médecine et 3 ans d'expérience professionnelle. Vous pouvez être ingénieur, pilote, chercheur. La limite d'âge a été repoussée de 40 ans à 50 ans cette fois-ci. Il faut parler parfaitement l'anglais et maîtriser une autre langue étrangère. Et lors de la formation, il faudra apprendre le russe. Il y a 12 ans, lors de la précédente sélection, 6 personnes avaient été recrutées parmi 8000 candidats, dont effectivement Thomas Pesquet, qui donne aujourd'hui un conseil à ceux qui hésiteraient à se présenter. Ayez confiance en vous, allez-y, vous n'avez rien à perdre.
À l'époque, c'était un ami qui avait lu l'annonce de la sélection d'astronautes dans le journal et qui m'en avait parlé. Alors il avait pensé à moi parce que j'étais pilote à l'époque, j'étais ingénieur avant, donc je correspondais un peu au profil recherché par l'Agence spatiale européenne. Mais si j'étais sélectionné au final, c'est surtout parce que j'ai tenté ma chance.
Le programme en tout cas qui attend les heureux élus fait rêver. Il y aura des missions dans la Station spatiale internationale, des missions en orbite autour de la Lune, puis sur la Lune puisqu'il est prévu qu'on y retourne dans les années qui viennent. L'Agence spatiale européenne ouvre aussi la porte aux personnes ayant un handicap physique. Elle va mener une étude et voir si des personnes handicapées pourraient, dans certains cas, devenir astronautes et effectuer des vols dans l'espace.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche.
Oui, ce qui est bien, c'est que dans l'espace, on n'est pas confiné. Enfin, si, on est confiné, mais dans la Station spatiale internationale. C'est quand même plus amusant. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30. La météo avec Anissa, encore une journée très ensoleillée au programme demain.
Oui, dès le début de la journée, Julien, le soleil brille, la douceur est déjà au rendez-vous tôt le matin. Nous aurons quelques nuages qui arrivent dans le sud-ouest, en particulier sur le Pays Basque, où là, le ciel est un petit peu plus couvert. Sur le littoral méditerranéen, toujours des entrées maritimes, comme depuis le début de la semaine. L'après-midi s'annonce une nouvelle fois estivale, avec des températures jusqu'à 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Sur les côtes de la Manche, je vous en parlais avant le début du journal, nous avons un vent de nord-est, ça, qui s'appelle aussi la bise, et qui va se lever sur les côtes de la Manche et qui va rafraîchir l'atmosphère. Alors on aura seulement 13 degrés à Dunkerque, 15 à Boulogne-sur-Mer, 16 à Cherbourg, 19 à Nice et Montpellier, 21 à Marseille et Caen, 22 à Lille et ailleurs. Ça grimpe encore avec 24 à Belfort et Lorient, 25 à Clermont-Ferrand, Nancy et Metz, 26 à Paris, Brest et Bordeaux, 27 pour Angoulême et 28, la maximale prévue chez vous, Julien, du côté de Tours. Alors profitez-en, conseil oui. d'amis, c'est le dernier jour.
Quand la bise fut venue, c'est la cigale et la fourmi.
Exactement.
La ouais. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure avec
à
une
l'heure.
Autre interro, hein, 18h30.
Ça marche.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h19, il est médecin, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Bonsoir Patrick Peloux.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans
Merci.
Europe Soir. Alors on attend tous, évidemment ensemble, ces annonces du président de la République qui dévoilera a priori de nouvelles restrictions, peut-être une fermeture des écoles. Et c'est vrai qu'il y a depuis plusieurs jours des médecins, d'Île-de-France notamment, qui disent ne plus s'en sortir. Et vous, à l'inverse, vous dites attention, il faut relativiser, ça n'est pas non plus la bérésina.
Ben je vous le confirme, j'ai travaillé toute la journée. Il y a une activité de patients qu'il faut prendre en charge sur la Covid-19, mais ça ne monte pas, d'accord ? Je vous le dis avec toute la solennité que c'est. J'ai regardé avant de venir, vous voyez, j'ai le tableur de toute l'activité des services des urgences. Bah, c'est pas du tout comme en mars de l'année dernière, d'accord hein et donc, non, ce n'est pas la bérésina. Alors, je sais bien qu'ils ont fait un coup politique, parce que c'est un véritable coup politique, puisqu'ils se sont adressés directement, et je comprends, parce que c'est des personnalités du monde de la médecine,
oui.
qui se sont adressés directement au chef de l'État.
Vous parlez des grands noms de la médecine qui ont publié deux tribunes, dans le journal du Dimanche et dans le Monde.
Selon eux, oui, oui, oui. Mais toujours est-il qu'ils ont paru ça, c'est donc un coup politique qu'ils ont fait, et donc le rapport devient extrêmement politique, et donc il faut savoir ce que l'on veut. Si nous avons une dictature médicale qui s'instaure en France pour faire et cloisonner tel qu'ils le veulent, puisqu'ils veulent un confinement dur comme l'année dernière, c'est-à-dire on ferme la France. On a vu les conséquences. En deux mois, on a une crise sociale monstrueuse, la pauvreté a monté d'un million.
Oui.
Vous avez une exclusion scolaire, les gens sont malheureux, les psychiatres débordent leurs consultations et les pédopsychiatres aussi. Et le retard scolaire est une réalité.
Vous êtes en colère, Patrick Peloux.
Bah
vous
oui,
êtes très
pourquoi
en
je suis
colère.
Pas, oui, pourquoi ne pas être en colère avec tout ce qui se passe ? Il y a un moment donné, je le vois dans mon métier, j'ai bossé toute la journée, les gens sont tristes, les gens sont malheureux, les gens sont très inquiets. Il faut voir les conséquences de ce que ça a. C'est-à-dire des médecins qui disent on va trier et sélectionner les malades.
Alors,
mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire
la question,
Patrick, alors que c'est faux.
C'est la question que j'allais vous poser, Patrick Peloux, vous m'avez devancé. Faire croire que l'on va sélectionner les malades et les trier, comme ça a été dit dans cette tribune du journal du Dimanche et du Monde, c'est faux.
Mais
ça n'est pas le cas.
Mais c'est faux. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement vient de le dire, et il a raison de le dire, c'est une méconnaissance. En plus de ça, permettez-moi de vous dire,
oui.
En tant que victime des attentats de Charlie Hebdo, d'oser comparer la situation de la crise épidémique avec les attentats, je trouve ça inique et totalement déplacé.
Vous avez le sentiment que ces médecins sont sortis de leur rôle ?
Je ne sais pas, ils sont peut-être emportés comme ça, je ne sais pas. C'est des gens très intelligents, c'est des gens qui ont fait des carrières hospitalières remarquables. Donc, je ne sais pas ce qui leur a pris, mais simplement dire à vos auditeurs que la fameuse notion de tri, c'est ce qui a organisé les 30 dernières années de notre système de santé.
Oui.
Si vous avez un infarctus, je viens vous chercher avec le SAMU, je vous emmène en cardiologie. En quelque sorte, je vous trie.
Oui.
Si vous avez une douleur abdominale, je vais vous emmener au scanner digestif et puis voir le chirurgien si c'est la chirurgie digestive. Donc, quelque part, il y a ces tris-là. Mais il y en a qui ont osé dire qu'on allait faire du tri de médecine de catastrophe. Ils ignorent ce qu'est la médecine de catastrophe. La médecine de catastrophe, on n'ignore personne. C'est ça, la grandeur et la modernité.
Alors, on va parler avec vous dans quelques secondes des raisons pour lesquelles l'hôpital aussi traverse une crise de moyens. C'est un sujet important, on en parle maintenant depuis plus d'un an. Mais pour vous, Patrick Peloux, ce soir, il ne faut pas prendre de décision.
Il y a une décision que j'attends du chef de l'État. Vacciner, vacciner, vacciner. Vous regardez ce qui s'est passé dans des pays à travers la planète.
Oui, les États-Unis, Israël,
Maroc,
la Grande-Bretagne,
Grande-Bretagne, États-Unis, ils ont cassé la chaîne épidémique. Ils sont en train de dire on redémarre le pays. D'accord.
Sauf que la France n'a pas de dose suffisante pour l'instant. On n'a pas encore suffisamment de doses.
Non, alors d'accord. Ça, je suis d'accord. on critiquera plus tard. Moi, je suis pour l'idée de faire nation et d'être unitaire. Il faut trouver des doses. Là, il y a des doses, paraît-il, qui arrivent par millions. Il ne faut pas qu'elles soient dans les frigos. Il faut vacciner, vacciner, vacciner.
Mais Patrick Pelloux, pour être tout à fait clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous nous dites, on a encore les moyens, pardon pour l'expression, mais de pousser les murs, de créer des nouveaux lits de réanimation, d'en réarmer certains. On parle par exemple du Val-de-Grâce.
Exactement.
Est-il possible de réarmer le Val-de-Grâce qui est aujourd'hui fermé depuis 3 ans?
Mais savez-vous qu'avant de fermer le Val-de-Grâce en 2013, il l'avait quasiment refait. D'accord ?
Donc c'est tout neuf.
C'est quasiment... Oui. Il y a, bon, les peintures, ça se refait, on n'a pas grand-chose à fuir. Il y a les fluides, etc. C'est la force sentinelle qui est dedans, donc c'est gardé. Hein, bon. On a fermé un des fleurons des hôpitaux qui était tenu par un service de santé des armées qui est exemplaire. Qui, à l'époque, a soutenu cette fermeture? Sinon, les hôpitaux de Paris, soit dit en passant. D'accord? Parce qu'ils s'étaient dit, ça va nous augmenter l'activité. Et comme on est à la tarification à l'activité sur les financements... Évidemment, ils se sont tous dit, c'est génial. On a fermé ce magnifique hôpital qui, en effet, à l'heure actuelle, puisqu'on cherche de la place, pourrait parfaitement servir. Le problème que vous allez me poser, c'est les personnels.
Oui.
C'est exact. Ce que vous remarquerez, c'est que par rapport à l'année dernière et à la même époque, les personnels ne viennent pas. Un, parce que le coronavirus est répandu sur toute la France. Deuxièmement, je trouve qu'on n'a pas été très cool avec ces personnels, y compris du secteur libéral, qui sont venus renforcer l'année dernière, quand, par exemple, on leur a dit « Ah, mais vous n'êtes pas de la fonction publique, vous n'aurez pas la prime. »
Oui.
Ça a donné une mauvaise image.
Oui.
Et donc, si vous voulez, il faut que...
une démobilisation.
Total. Donc, d'un coup, si des personnels veulent venir renforcer les hôpitaux, il faut qu'ils soient payés correctement et considérés.
Alors, vous mettez en cause les directeurs, notamment de crise, qui n'ont pas voulu ouvrir de lits de réanimation supplémentaires, préférant les lits éphémères. C'est vrai que le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé 12 000 lits éphémères, je crois. Est-ce que ces lits existent?
Mais non, mais ils ont créé des lits en déprogrammant, la déprogrammation qui pose des problèmes pour les autres malades, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus en France, d'accord? Il y a les autres malades, et il faut souligner d'ailleurs que le coronavirus devient chronique pour beaucoup de malades, et ça entraîne des malades qu'il faut programmer pour des suivis très complexes. Bref, il y a vraiment une problématique globale du système de santé. Je pense qu'au cours des 20-30 dernières années, on s'est trompé, on a fermé trop de lits d'hôpitaux, on n'a pas su faire travailler le privé et
le
public.
Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui.
Totalement.
Bon.
Et les lits de réanimation, on est à la traîne, on est à la traîne des pays de l'OCDE. Écoutez ce que disent les réanimateurs médicaux, la société de réanimation de langue française comme le professeur Maury. Écoutez ce que dit Christophe Prudhomme, Gérald Kierzek, très connu de TF1. On dit tous la même chose. On manque de lits de réanimation médicale.
Je voudrais
vous
interroger, Patrick Pelloux, sur une petite musique qui est aussi en train de monter sur le rôle du patron de la PHP, Martin Hirsch, accusé d'être trop alarmiste, ça rejoint un peu ce que vous dites, car il aurait, dit-on, des ambitions politiques aux côtés d'Anne Hidalgo, notamment. Est-ce que c'est vrai ?
Non, ça, je crois pas. Je n'en ai pas parlé avec lui, mais je crois pas. Je crois que ça, c'est des canulars et des rumeurs.
Oui.
Parce que, pour le coup... Le directeur général de la PHP est complètement concentré sur la crise et les moyens à donner à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. C'est un honnête homme. Je ne crois pas du tout qu'il soit sur des calculs comme ça. Il a absolument pas le temps et je pense que c'est vraiment des
bilvesés. En quelques secondes, Patrick Pelloux, qu'est-ce que vous attendez du président de la République ce soir?
Moi, j'attends la vaccination. J'attends, un, la vaccination. Deux, qu'il y ait des mesures probablement pour freiner les regroupements pendant les 15 prochains jours. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est ce que j'aime, soit dit en passant, donc je les comprends, mais les rassemblements pour boire une bière et tout ça.
Oui.
Bon, voilà, c'est ça. Réaffirmer les gestes barrières.
Oui.
Et débloquer les verrous qu'il y a dans les hôpitaux. Vous citiez par exemple la réouverture du Val-de-Grâce, mais donner des symboles, soit dit en passant. Si le président de la République fait ce symbole pour réouvrir le Val-de-Grâce, il deviendra à nouveau très populaire à l'armée française. Hein, ça, c'est sûr.
Bien. Eh bien, message entendu. Il a 1h30 pour affiner sa copie et répondre à Patrick Pelloux, car il nous écoute en ce moment dans Europe Soir. Merci, mon cher Patrick Pelloux, d'être venu ce soir nous délivrer ce message. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Place au débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France. Bonsoir, Brice.
Bonsoir, Julien.
Étienne Girard, rédacteur en chef société à L'Express. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Julien.
Et Catherine Ney, éditorialiste évidemment Europe 1. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir, Julien.
C'est donc la première prise de parole du chef de l'État depuis le début de cette année 2021. On l'a un peu oublié, mais c'est le cas. Cela fait plus de 3 mois qu'il n'a donc pas parlé directement aux Français de cette manière-là. Et cette fois, il devrait donc annoncer de nouvelles mesures. D'ailleurs, tout à l'heure, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a livré quelques éléments.
On a toujours regardé avec lucidité et humilité la gestion de cette épidémie. Il y a des choses qui ont été réussies. Il y a des points qui l'ont moins été. Il y a eu des erreurs, probablement. Je crois que l'important, c'est de le reconnaître. Et encore, il y a quelques jours ou quelques semaines, vous vous souvenez d'un épisode autour de l'attestation, c'est reconnaître quand il y a des choses qui ne vont pas.
Un peu d'humilité, Catherine Ney. On peut reconnaître ça à Gabriel Attal cette fois-ci.
Oui, mais là, quand vous dites le président n'a pas parlé depuis très longtemps, c'est vrai, en déclaration solennelle, en convoquant tout le peuple, mais il a quand même parlé le 26 mars, le soir à l'Élysée. Il était tard, il était plus de 22 heures.
Oui, à l'issue d'un Conseil européen.
À l'issue d'un Conseil européen.
La dernière allocution, elle remonte quand même au 24 novembre 2020.
Oui, mais pour dire que se donner des satisfecit en disant « nous avons raison de ne pas confiner », je n'ai aucun remords, aucun constat d'échec, pas de mea culpa. Donc, il était très, très content de lui. Et il avait juste voulu faire un mea culpa, mais sur sa coupe sur la poitrine de l'Europe, oui. En disant sur les vaccins, on n'a pas été bon.
Oui.
C'est-à-dire qu'il se donnait quand même un satisfacit. Alors, ça va être très intéressant de voir ce soir ce qu'il va modifier de son programme. Est-ce qu'il va clarifier les choses pour les Français, leur donner un calendrier de sortie de crise? Est-ce qu'il va enfin sortir des ambiguïtés dans lesquelles on est plongé depuis longtemps?
C'est vrai, Brice Teinturier, que ça va être compliqué comme exercice ce soir pour le président. Il va falloir qu'il justifie un certain nombre de renoncements par rapport à la stratégie qu'il avait mise en place.
Oui, la première question, c'est est-ce qu'il doit parler? Réponse oui, parce que la situation a évolué, que les Français attendent une prise de parole maintenant solennelle et précise du chef de l'État.
Et puis, il a une sacrée pression sur les épaules, des médecins, de l'opposition, de l'opinion publique.
Tout à fait, et c'est le deuxième point. Est-ce qu'il doit bouger? Oui, également. Pour les raisons que vous venez d'énoncer, il y a une pression accrue, il ne peut pas simplement s'en tenir au discours comme si rien ne se passait en disant « tout va bien, je maintiens comme cela ». La pression hospitalière est plus forte, donc il doit bouger. Est-ce qu'il doit pour autant reconfiner totalement le pays ou trouver, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, une voie médiane, comme semblent l'indiquer les premières pistes qu'on a, c'est-à-dire une généralisation à l'ensemble du territoire de ce qu'on connaît un certain nombre de départements, et avec un jeu sur les vacances et du présentiel, des écoles qui ne seraient pas ouvertes pendant une partie. Moi, j'ai l'impression que oui, par rapport aux attentes de la population, un nouveau confinement sous cloche serait absolument insupportable pour une grande partie des Français. Et en revanche, ne pas bouger, ne pas ajouter des mesures plus restrictives serait perçu comme quelque chose d'inconséquent. Donc la voie médiane qui semble se dessiner me paraît être en phase avec le climat d'opinion et les attentes de nos concitoyens.
Il y a quelque chose qu'on peut acter tout de même, Étienne Girard, c'est que le président a perdu son pari. C'est le virus qui a gagné.
Oui, le fait qu'il soit obligé ce soir de parler de façon solennelle devant la nation acte une certaine défaite du président de la République. Après, la question, c'est est-ce que tout cela, ce sera une péripétie qu'on aura oubliée dans un mois, dans deux mois, ou est-ce que ce qui va se passer ce soir, c'est une date clé?
Oui.
L'idée de la troisième voie que vient dénoncer Brice Teinturier me semble être l'idée la moins douloureuse pour le président de la République. Déjà, Brice vient de le rappeler, ça correspond sans doute à la demande du corps social aujourd'hui. Et puis, ça permettrait à Emmanuel Macron de déployer un narratif qui lui permet d'expliquer qu'il est en cohérence avec ce qu'il propose depuis maintenant le début de l'année 2021, depuis fin janvier, quand il a refusé de suivre les préconisations du Conseil scientifique et qu'il n'a pas reconfiné.
C'est toute la difficulté de l'exercice ce soir. Le piège se referme en quelque sorte sur l'exécutif. Catherine, Jean Castex nous disait il y a quelques jours, il faut vivre dehors. C'est la formule un peu maladroite d'ailleurs. Dehors en citoyen. On ne peut pas dire aujourd'hui on vous enferme à nouveau. Ça serait faire une trop grosse marche arrière. Et puis idem pour les écoles, on en a fait un totem. C'est très bien. On peut en être fier, comme l'a rappelé le ministre Blanquer tout à l'heure à l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, ça se retourne un peu contre l'exécutif tout de même.
Oui, oui, mais le mot d'ordre du Premier ministre, c'était freiner, mais ne pas enfermer. Certains jeunes ont pris au mot cette parole du Premier ministre et ils sont sortis. Mais alors sortir un peu, mais pas trop. Respecter les mesures barrières. Or, c'est très difficile aujourd'hui d'annoncer un confinement ou des mesures restrictives, alors qu'avec le changement d'heure et la hausse des températures, les gens n'ont qu'une envie, c'est être dehors.
Et donc, puis la date anniversaire, un an après le premier confinement du printemps dernier.
Il y a un an, le président avait dit « nous sommes en guerre ». Et puis, voilà quelques mois, il a dit « c'est le virus qui est le maître du temps ». Ça veut dire que c'est quand même reconnaître une défaite.
Oui.
Donc, le seul ennemi, c'est le virus. Et qu'est-ce qui peut tuer le virus? C'est le vaccin. Alors, est-ce qu'il en a assez fait pour le vaccin? Est-ce qu'il a eu raison de ne pas prendre des mesures, comme l'Allemagne commence à le faire, peut-être acheter un vaccin russe?
Oui.
Parce que l'essentiel...
En direct, sans passer par la centrale d'achat, voilà, si je puis dire,
voilà,
de l'Europe.
Est-ce qu'il en a fait assez? Ça, c'est un vrai problème et il devra peut-être... répondre à cette question ce soir.
Voilà, dans 1h20 maintenant, 18h38, on se retrouve dans quelques secondes avec les grandes voix. On poursuit le débat et la discussion. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, la suite du débat des grandes voix avec toujours Catherine Ney, Brice Teinturier, d'Ipsos, Étienne Girard de L'Express. Brice Teinturier, question pour vous. Est-ce que cet événement, est-ce que ce reconfinement partiel et cette fermeture des écoles, ça laissera des traces politiquement, ces atermoiements de l'exécutif et du président de la République sur l'opinion publique?
Il y a deux lectures possibles. Soit l'opinion publique va faire une lecture rétrospective en se disant finalement ce qu'a tenté Emmanuel Macron était trop hasardeux, trop aventureux, on le paye en nombre de morts accrus et c'est de sa faute. Et là, la sanction peut être extrêmement forte et c'est véritablement potentiellement un tournant du quinquennat. Soit, et à date c'est plutôt l'option que je privilégierais,
oui,
ils se diront, il a tenté de trouver à chaque fois une voie médiane qui préservait les trois grandes contraintes, économiques, sanitaires et d'équilibre aussi de la société. Oui. Et la lecture peut être à ce moment-là un peu plus indulgente, on ne le sait pas à date, ça dépendra du nombre de morts et de la sortie. Je pense que ce soir en revanche, il doit annoncer, ça me paraît capital, une date de sortie comme il l'avait fait quand il avait annoncé le déconfinement pour
oui,
mai
un
dernier,
calendrier, un cap.
Il faut qu'il donne un calendrier et potentiellement il le peut avec la vaccination. C'est
alors,
ça qui est un enjeu fort.
À propos
ce soir.
D'équilibre entre sanitaire et économique, je voudrais vous faire partager les propos du directeur général de l'école économique de Toulouse, Christian Gaulier, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est important de vous entendre ce soir. Vous avez d'ailleurs été cité dans le journal Le Monde aujourd'hui dans un article fort intéressant et vous dites ceci. Il est absurde de croire que la vie n'a pas de prix. Bien sûr qu'elle en a un, et c'est important de mettre un chiffre sur cette vie. Expliquez-nous ça en quelques secondes.
Écoutez, aujourd'hui, on a la capacité dans les modèles épidémiologiques d'estimer le nombre de morts et la perte économique liée à différentes politiques sanitaires. Et la question, c'est comment choisir entre différentes politiques dont certaines impliqueront plus de morts et moins de pertes économiques et d'autres plus de pertes économiques et moins de morts. Et donc, in fine, il faut prendre une décision. Et tant qu'on n'aura pas collectivement donné une valeur à une dimension par rapport à l'autre, ici, il s'agit de donner une valeur à la vie humaine, on laissera l'ambiguïté totale et on sera incapable d'évaluer la politique publique sanitaire en termes du bien commun, en termes de l'intérêt général.
Oui, et vous dites d'ailleurs, France Stratégie, qui est rattachée au gouvernement, a estimé la valeur d'une vie, alors c'est un peu, pardon, cynique et mécanique, mais à 3 millions d'euros en rapportant coût d'investissement public aux vies que ces investissements permettent de sauver. Et vous dites, sans cet indicateur, il est impossible de parvenir au fameux compromis acceptable entre le sanitaire et l'économie, finalement.
Exactement. Comment définir l'acceptabilité d'une politique? Comment juger si le degré de confinement, si la vitesse de vaccination est au bon niveau? Tant qu'on n'a pas à nouveau fixé une valeur à la vie humaine, et vous avez rappelé qu'en France, depuis plusieurs décennies, on a pour un ensemble d'activités publiques une évaluation de la vie humaine qui est utilisée pour déterminer s'il faut réduire la vitesse sur les autoroutes, sur les nationales, s'il faut construire de nouvelles maternités ou des nouvelles lignes TGV, ça se fait depuis des décennies en utilisant la valeur de la vie humaine que vous avez citée.
Bien, et vous dites d'ailleurs le stop and go est coûteux du coup humainement et économiquement. Merci Christian Gaulier pour cette explication et ce témoignage. Réaction Brice Teinturier.
Je comprends parfaitement la volonté et sans doute la nécessité d'essayer d'objectiver ce que pourrait être la valeur d'une vie, mais je ne peux pas m'empêcher de souligner que ça n'a pas de sens subjectivement pour les individus. Mmh. Vous n'allez pas leur dire qu'on peut accepter un compromis social sur des contraintes, si on est au-dessus ou en dessous de la barre de 3 millions par individu. Ça leur paraîtra scandaleux et surtout totalement incompréhensible.
Oui.
Et c'est toute la difficulté de l'exercice, même si encore une fois, on peut comprendre qu'il faille essayer d'objectiver comme ça des décisions, mais le contrat de la société, il ne se fera pas sur une balance à 2 millions, 3 millions ou 4 millions de la valeur
d'une
vie.
Mais indépendamment du chiffre, ce qui est intéressant, Étienne Girard, dans simplement le mécanisme de réflexion, c'est de dire ces contraintes sanitaires, elles ont un coût évidemment économique, mais elles ont un coût sanitaire à long terme. Et ça, il faut être en capacité de le mesurer.
Ah oui, tout à fait d'accord. À mon sens, c'est le grand apport des travaux de quelqu'un comme Christian Gaulier, c'est d'essayer de trouver ce que sont les morts indirectes du Covid. Les morts directes, on les comprend. mais une politique sanitaire, une politique économique, ça cause effectivement aussi des morts indirectes qui sont moins tangibles, donc moins pris en compte, et notamment parce qu'on n'ira jamais porter plainte contre un ministre, par exemple, parce qu'il a causé des morts indirectes.
Mais maintenant, il risque d'y avoir des plaintes, justement. Parce qu'il y a déjà 150 plaintes de personnes dont un parent est mort et qui trouvent que leur parent n'a pas été traité comme il fallait. Il y a 150 plaintes. Au contraire, c'est très difficile aujourd'hui d'être un politique et de gérer une crise sanitaire comme ça, qui est quand même une première dans notre vie politique depuis des années.
C'est exactement pour ça qu'un ministre prendra toujours plus en compte les morts directes d'une pandémie, parce que c'est des morts qui peuvent causer effectivement des plaintes directes sur son nom que des morts indirectes, c'est-à-dire causées à plus long terme par plusieurs raisons, plusieurs symptômes. Et donc, on ne portera jamais plainte, on ne se plaindra jamais de l'action politique.
Parenthèse fermée, mais je voulais vous faire partager cette parole et cette réflexion. Revenons à un aspect plus politique, Brice Lintérieur. Est-ce que les critiques contre la prise de décision trop solitaire du président, ça aussi, ça peut avoir un impact in fine dans l'opinion ?
In fine, oui. Je pense que l'opinion, elle se demande d'abord est-ce que les décisions qui sont prises sont bonnes, sont adaptées ? Mais si justement, à un moment donné, les Français se disent ce ne sont pas les bonnes décisions, ou le coût est trop élevé en matière de mort, ou à l'inverse, en matière de contraintes économiques, à ce moment-là, la question de la façon dont la décision a été prise par Emmanuel Macron et le reproche de quelque chose de trop personnel, pas assez collectif, reviendra en critique majeure et extrêmement forte.
Parce qu'il y a les mesures sanitaires, mais il y a aussi les atermoiements sur tout l'à côté. Évidemment, la stratégie vaccinale, on avait dit on y va mollo au début, avant de se rendre compte qu'il fallait accélérer. Les vaccinodromes, début janvier, le ministre de la Santé nous disait on n'ira pas avant d'accélérer aussi, y compris sur les autotests. C'est un épiphénomène, mais quand même, c'est symptomatique. On nous avait dit on va y aller comme les Allemands, et puis on a fait marche arrière. Tout ça, ça finit par compter au bout du bout, Catherine Ney.
Oui, mais si vous regardez nos voisins allemands, puisque vous venez de les citer, à Berlin, on a construit 7 vaccinodromes. Il n'y en a qu'un seul ouvert parce que, comme en France, les vaccins n'arrivent pas. Et d'ailleurs, le Spiegel a dit vraiment l'incompétence allemande. Et je crois que les systèmes de santé décentralisés de l'Allemagne font que ça ne se passe pas bien du tout et que les Allemands en veulent beaucoup à Angela Merkel, qui s'en va dans quelques mois. Et d'ailleurs, elle a demandé pardon.
Oui.
Elle a demandé pardon.
Pour avoir voulu reconfiner pour le week-end de Pâques.
Pour avoir rajouté une journée le jeudi. Et ça a posé tellement de problèmes aux industriels qui ont dit « Est-ce que c'est un jour chômé ?» Toutes les du terrain remontaient tellement de questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre qu'elle a renoncé au jeudi. Et elle a demandé pardon uniquement pour ça.
Allez, quelques secondes de pause. On se retrouve dans un instant avec les débatteurs pour les grandes voix. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, le débat des grandes voix suite. Catherine Ney, toujours Brice Teinturier, d'Ipsos, Étienne Girard de L'Express. Brice Teinturier, vous me rappeliez pendant cette courte coupure pub que c'est vrai. C'est vrai, on peut parler des errements, on peut parler des atermoiements, on peut parler de ce qui sera annoncé ce soir, mais le nerf de la guerre dans cette histoire, c'est la vaccination.
Mais oui, je crois que c'est à la fois la vaccination, parce que c'est la porte de sortie objective de cette période, et qu'elle est en train d'arriver malgré tout. On ne sait pas très bien, ça sera en juin ou en juillet, mais paradoxalement, on est plutôt bien orienté sur la porte de sortie à travers la vaccination. Et le juge de paix ultime pour les Français, je pense qu'il se jouera sur ce critère. Est-ce que nous reviendrons à une vie à peu près normale grâce à la vaccination avant, en même temps ou après la plupart des grands pays ? C'est ça qui fera que les Français, à un moment donné, se diront « on a été correctement géré ou pas » et pour le coup, on a pris du retard. Donc c'est là où il y a un enjeu, une difficulté massive, je pense, pour le gouvernement, parce qu'on n'est pas bien parti dans la comparaison pour véritablement être sûr qu'on reviendra à une vie à peu près normale, au moins en même temps.
Ça veut dire que ce qu'on attend aussi ce soir Catherine Ney du président de la République, c'est un cap et un calendrier clair et définitif cette fois sur la vaccination.
Oui, mais ça tout dépend encore des vaccins. Vous voyez, quand il a dit on n'a pas eu cette folie, mais c'est vrai qu'en mai dernier, Trump, il avait dit allez, on y va. Il a engagé des milliards et il a dit il faut absolument un vaccin à l'automne. Et le vaccin est arrivé aux États-Unis à l'automne. Vous voyez, tout le monde s'est moqué de lui et c'est lui qui avait raison. On n'a pas eu cette folie, mais parce que je crois que le président, il avait tellement peur des Français, de la réaction au vaccin, qu'il ne voudrait pas se faire vacciner. D'ailleurs, il avait fait la...
Mais cette fois, les vaccins, ils arrivent. En avril, on aura eu 25 millions de doses, 50 millions au mois de mai. Ça y est, ils sont là. Donc là, il va falloir mettre le paquet.
Oui. Mais AstraZeneca, il faut plusieurs semaines avant que l'immunité et soient préservées. Il faut plusieurs semaines. Un peu moins pour Pfizer. Bon, Et heureusement, il va y avoir Johnson & Johnson, le vaccin qui va arriver.
60% d'efficacité après la première piqûre.
Oui, mais au bout de trois semaines.
Voilà.
Et pour l'instant, il y a 7,5 millions de Français qui sont vaccinés et 2,5 millions seulement qui ont la deuxième dose. Et on a l'impression qu'il y a du retard pour la deuxième dose. Voyez.
Il y a le nombre de doses, effectivement, et quand est-ce qu'elles vont arriver. Et puis, il y a aussi la méthode pour que ça diffuse le plus vite possible sur l'ensemble de la population. Et là, la question du vaccinodrome, elle est quand même extraordinaire parce qu'au début, le gouvernement nous avait expliqué que non, ce n'était pas la bonne solution. Il est en train de changer. J'ai envie de dire heureusement, mais la vraie question c'est est-ce que du coup le retard va être rattrapé ? Et à ce moment-là, encore une fois, on sera dans quelque chose de comparable aux autres pays et peu ou prou, ça ira bien ? Ou est-ce que ce retard à l'allumage sur la méthode, pas simplement sur les doses, mais sur la méthode, la façon de les acheminer auprès des Français, sera comblé ou non ?
On peut retourner la question dans tous les sens, mais quand on voit la machine de guerre américaine qui s'est mise en place avec des méga-centres partout, qui dans chaque centre vaccine 10 000 personnes par jour. On en est loin, Étienne Girard, et ça, on n'arrivera jamais à le combler, ce retard-là.
Ça, c'est fini, c'est évident. Il y a une grande erreur d'analyse, c'est en décembre dernier, quand on choisit d'aller crescendo sur la campagne de vaccination. On ne fait pas de grand vaccinodrome, on y va petit à petit, mais c'était totalement ignoré ce qu'étaient les variants. À l'époque, il n'y avait pas encore de variants, mais ce que disaient tous les épidémiologistes, vous pouvez interroger n'importe lequel, c'est que c'était imminent qu'on allait avoir des variants et que le virus allait muter. On a ignoré
c'est
ça.
C'est quand même pas là le symptôme de la bureaucratie française.
Ah mais totalement, totalement.
Et des corporatismes aussi, puisqu'on sait que c'est les médecins qui ont poussé pour récupérer d'une certaine manière la maîtrise de la campagne de vaccination.
Les deux, mais au sein du ministère de la Santé, on a dit c'est mieux d'y aller petit à petit, comme ça on va apprendre en le faisant. Sauf qu'on n'avait pas le temps d'apprendre en le faisant. Et aujourd'hui, oui, on paye cela. Vous disiez tout à l'heure, il nous faudra un calendrier définitif ce soir. Mais ce n'est pas possible d'avoir un calendrier définitif. On en a déjà eu plusieurs des calendriers. À chaque fois, ils sont revus à la baisse.
Qu'est-ce qu'il peut dire, Brice Teinturier, ce soir, sur ce sujet de la vaccination, le président de la République ?
Je pense qu'il doit d'abord rappeler que c'est la porte de sortie, qu'elle est là, pour redonner quand même un peu d'espérance aux Français et d'espérance fondée sur une réalité. Et je crois aussi, même si c'est plus compliqué, qu'il doit donner une date. Comme il l'avait fait, encore une fois, au moment du premier déconfinement, les perceptions avaient vraiment changé quand il avait annoncé que le déconfinement pourrait se faire à partir de la fin du mois de mai, si ma mémoire est bonne. Eh bien là, c'est un peu le même enjeu connecté à la vaccination. S'il ne dit pas ce soir, je durcis un certain nombre de choses parce qu'il faut le faire, mais nous sommes en train de voir le moment où on pourra revenir à une vie normale, que ce soit en juin ou en juillet, là, il raterait quelque chose. S'il donne cette date, je pense que les Français peuvent accepter encore une période où qu'à un quart an, on aurait un peu plus de contraintes, pas un confinement total, et qu'on continuerait à naviguer de cette façon s'il y a le point d'arrivée.
Bien, réponse ce soir à 20h et on en parlera demain ensemble.
Et oui, parce que demain, il y a un débat au Parlement sans vote et le Premier ministre qui refait un discours pour sûrement dire la même chose que le Président, ça n'ayant pas de crainte.
Merci Catherine, merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés le débat des grandes voix, spéciale allocution du Président de la République. Ce sera tout à l'heure à 20h.
Europe 1, écoutez le monde changer.